Bien le bonjour, bienvenue dans ce podcast Chercheurs d'habitude, un podcast qui parle d'habitudes quotidiennes, forcément, et de comment on va arriver à les gérer au quotidien en fonction de notre situation. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec Bjorn de la chaîne Vivre sans argent. Bonjour Bjorn.
Bonjour, ça va?
Très très bien, et toi?
Écoute, ça va, on a eu un petit peu de difficultés techniques pour arriver à se joindre au début, mais tout fonctionne bien, donc voilà, c'est parfait.
Oui, c'est super, quand on arrive à s'agencer comme ça.
Quand ça marche, quand la technique ne te faille pas.
C'est ça. Avant tout, comme tu vois, on rentre direct dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu et, qui es-tu en fait? Qui est Bjorn de la chaîne Vivre sans argent?
Je m'appelle Bjorn, je suis... C'est très étrange, mais je vais me définir non pas par mon métier, mais par ma classe sociale.
Oui, pas de souci.
Je suis de la classe moyenne, c'est-à-dire je suis pas pauvre, je suis pas riche. Et par contre, je suis une personne qui s'est rendu compte il y a une dizaine d'années que ma classe sociale, elle tendait à s'appauvrir. C'est-à-dire qu'en continuant à faire le même travail, en faisant la même chose, je gagnais de moins en moins d'argent par rapport au prix. Tu vois, le coût de la vie augmentait, puis moi, mon salaire, il restait pareil. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à des démarches, à des trucs et astuces pour, tout en gardant le même salaire, avoir un niveau de vie plus confortable. En résumé, c'est ça.
D'accord. Très intéressant, en tout cas, parce que forcément, je pose cette question à chaque fois. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, la plupart des gens se définissent par leur métier. Et le fait que tu te définisses par ton environnement social, ta classe sociale, je trouve ça intéressant en tout cas. J'aimerais qu'on parle au départ un petit peu de ce podcast pour parler d'autosuffisance, parce que je sais que c'est un sujet que tu apportes beaucoup, que tu parles beaucoup sur ta chaîne.
Ouais.
Et j'aimerais que tu puisses définir un petit peu ça pour les gens qui ne connaîtraient pas ou alors qui s'y intéressent mais peut-être de loin, tu vois. Est-ce que tu peux nous définir un petit peu qu'est-ce que c'est l'autosuffisance?
Oui, et puis en plus, si je le définis, ça permet de comprendre le titre de ma chaîne en fait. L'autosuffisance, c'est la capacité de faire pour toi, de produire pour toi, tout seul, sans intervention extérieure, la totalité de ce qui est nécessaire pour rester en vie. Alors, pour rester en vie, il n'y a pas énormément de choses, en définitive. Il faut se chauffer, donc il y a le chauffage, il y a tout ce qui tourne autour de l'énergie. Il faut manger, il faut boire. On néglige un peu l'eau, mais c'est un besoin vital. Il faut assurer son hygiène, c'est-à-dire rester propre, ne pas attraper de maladies. Tu vois, il y a un certain nombre de choses qui sont nécessaires pour rester en vie. Et toutes ces choses, actuellement, on dépense de l'argent pour les faire. Or, il se trouve que c'est bien pratique parce que du coup, l'argent, c'est un compteur qui permet de mesurer si on est autosuffisant sur une chose. Si tu dépenses 0 euro pour te chauffer, alors ça veut dire que tu es autosuffisant en chauffage. Si tu dépenses 0 euro pour boire, ça veut dire que tu es autosuffisant en eau. Si tu dépenses 0 euro pour manger, ça veut dire que tu es autosuffisant en alimentation. Et donc, moi, ma démarche, elle consiste à essayer de faire un maximum de choses pour lesquelles je dépense 0 euro et à tendre comme ça vers l'autosuffisance. C'est la raison pour laquelle j'ai appelé ma chaîne « Vivre sans argent », c'est-à-dire assurer tous ses besoins vitaux, mais à chaque fois sans dépenser d'argent. En gros, c'est ça, l'autosuffisance. Être capable de... Tu vois, s'il n'y avait plus de magasins ouverts demain, si tous les supermarchés étaient vides, si les stations-service, il n'y avait plus d'essence, s'il n'y avait plus d'électricité, plus d'eau au robinet, si tu es autosuffisant et que tu produis ton eau, tu as toujours de l'eau. Si tu es autosuffisant et que tu produis ton électricité, tu as toujours de l'électricité. Si tu produis ta nourriture, tu as toujours de la nourriture, etc. Voilà en gros ce que c'est que l'autosuffisance. Après, je pourrais développer pendant des heures, parce que ça fait une bonne dizaine d'années que je fais cette chaîne. Mais en résumé, un résumé court, c'est ça.
Oui, c'est très bien, c'est très bien. Au moins, ça permet d'encadrer, on va dire, ce que tu fais. Et aussi, de toute façon, c'est vrai que je comptais le dire, mais je vais le dire maintenant, que si vous êtes intéressé par l'autosuffisance et tout ce qui touche justement à créer les choses par soi-même, et je vais dire ça comme ça, pour arriver à gérer un peu votre quotidien en autosuffisance, je vous invite à aller voir la chaîne Vivre sans argent. Vous verrez tous les conseils. Il y a beaucoup de vidéos en plus. Il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de conseils. En plus, tu fais quelques interviews aussi d'autres personnes autosuffisantes aussi. Donc, c'est vraiment intéressant si c'est un sujet qui vous intéresse. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi toi, personnellement tu t'es tourné vers l'autosuffisance? Tu nous as déjà donné un petit peu expliqué, mais voilà, est-ce que tu peux aller plus loin?
Je peux aller plus spécifiquement, en fait. C'est à cause d'une particularité des contrats de travail que je signais. Comme moi, je ne suis pas fonctionnaire, mais je travaille pour l'administration. Dans l'administration, ils nous font signer des contrats de travail, en fait, dans lesquels le salaire est fixe. C'est-à-dire qu'on n'a pas, une fois qu'on a signé le contrat, il y a pas, quand t'es fonctionnaire, tu sais, t'as des primes, t'as une augmentation régulièrement. Là, mon salaire est fixe, j'ai pas d'augmentation. Donc, quand j'entre à un poste, eh ben, mon salaire, il va pas bouger. Je vais pas avoir, me dire, ben, tiens, dans un an, dans deux ans, s'il y a de l'inflation, mon salaire va augmenter. Là.
Oui, il n'y a pas de possibilité d'augmentation.
Il n'y a pas de possibilité d'augmentation du salaire. Par contre, l'inflation, ben là, en ce moment, on le voit, il y en a de plus en plus chaque année. Et donc, je me suis dit, OK, puisque mon salaire ne peut pas augmenter, il faut que je fasse le truc à l'inverse et que je diminue mes dépenses. C'est-à-dire, je garde le même salaire, mais je dépense tellement moins d'argent que ça me fait beaucoup plus d'argent pour moi à la fin du mois pour partir en vacances, pour aller au cinéma, au restaurant, etc., quoi. Et donc, la raison pour laquelle je suis parti dans cette direction, c'est de me dire, ben, très bien, le boulot que je fais me passionne, donc je vais pas chercher un autre boulot pour gagner plus d'argent, parce que le but dans la vie, c'est quand même d'être heureux. Et comme le boulot, c'est ce qu'on fait le plus, ben, autant prendre un boulot qui rend heureux, quitte à pas gagner beaucoup d'argent. Et donc, puisque je peux pas gagner plus d'argent, je vais prendre le truc à l'inverse et je vais diminuer mes besoins, je vais diminuer l'argent dont j'ai besoin tous les mois, diminuer mes dépenses, et comme ça me fera plus d'argent à la fin du mois. Parce que si t'as pas de facture d'eau, enfin, tu comprends, ça, à la fin du mois,
ça, bien sûr, ça allège énormément et ça permet d'utiliser ton argent
pour autre chose.
Vraiment pour ouais, et même
pour profiter de la vie.
C'est ça, et surtout pour ce que t'as envie de faire.
Ouais.
Parce que finalement, ben, on paye notre eau. Bien sûr qu'on a envie de boire. Enfin, c'est pas la question. Mais disons que c'est un peu des automatismes.
C'est une obligation.
On est obligé de payer notre eau. Voilà, voilà, c'est ça, une obligation.
T'es en hiver, t'es obligé de te chauffer. Sinon, tu meurs pas de froid. Le français moyen, donc j'avais fait des calculs, dépense environ 1 800 € de frais de chauffage. Alors ça dépend bien sûr d'une situation à l'autre, hein, il y a des grandes variations, mais c'est en moyenne 1 800 € de frais de chauffage par an. Ben, 1 800 €, t'en fais des choses quand t'as économisé 1 800 €, hein. Moi, le simple fait que je paye pas le chauffage, ça fait que je peux partir en vacances avec des gens à qui je paye les vacances, tu vois.
Oui, bien sûr.
C'est un exemple de confort qui est amené parce que je fais des économies par ailleurs.
Et justement, j'avais noté une autre question, mais c'est pareil, tu y as un peu répondu. Je te la pose quand même si tu as envie d'aller plus loin sur certains sujets, mais parce que y a certains frais qui sont difficilement, comment dire. On va difficilement pouvoir les réduire. Par exemple, si on a un loyer, si on a des assurances,
ouais.
C'est difficile de les arrêter, tu vois, du jour au lendemain. Donc, comment on peut faire autrement ou comment on peut...
Alors, je vais te répondre. Là, c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a une réponse individuelle pour chaque sujet.
Bien sûr, bien sûr.
C'est-à-dire, pour chaque truc, les gens me disent « Oui, mais je suis obligé de mettre de l'essence dans ma voiture. Comment est-ce que je fais pour, si je veux plus payer d'essence ? Je suis obligé d'avoir... » Et il va y avoir une réponse différente pour les assurances, pour la mutuelle santé, pour l'essence, pour le loyer, pour...
Oui, et puis en plus, c'est en fonction de la situation.
En fonction de la situation, de ton métier, de où tu vis, de ta localisation, de ta situation familiale aussi, parce qu'il y a des choses que tu peux te permettre quand t'es célibataire, tu vois, c'est facile. Moi, j'ai vécu dans une tente, puis en caravane, c'est très facile de.
Oui, en célibataire, mais après, dès que tu as des enfants, etc., ça devient plus compliqué.
Voilà, c'est beaucoup moins évident de vivre en tente avec des enfants, tu vois. Mais là, je viens de répondre à ta question sur le loyer, par exemple. C'est-à-dire que j'avais un loyer qui tournait autour de 1 000 € par an, puisque. Alors d'abord, j'étais à Lyon, où le loyer était moins cher, mais j'ai dû partir travailler à Paris. Et alors à Paris, le loyer, mais c'est un truc de fou. J'étais dans un truc minuscule et je payais 1 000 € parce qu'en plus, il fallait que je sois physiquement proche de mon boulot pour pouvoir m'y rendre en urgence si nécessaire. Donc dans le centre de Paris, c'est un truc de fou. Je devais être dans 15 mètres carrés pour 1 000 €, quoi, un truc de fou. Et donc réduire ça, une fois que tu as réduit ça, eh ben 1 000 € par mois sur un an, ça fait 12 000 €. C'est une somme phénoménale. Et alors concrètement, ce point-là, comment je l'ai résolu? Il y a une partie des fonctions que j'exerçais qui pouvaient être faites en télétravail. Donc, ce que j'ai fait, c'est que plutôt que de rester sous contrat avec le ministère pour lequel je travaillais, j'ai fait des prestations en tant qu'auto-entrepreneur.
D'accord, très intéressant ça.
J'étais pas tenu physique, j'étais pas tenu d'être présent physiquement.
C'est ça.
Pour les réunions, on pouvait faire des réunions. Bah, maintenant, il y a la magie d'Internet, hein, donc on pouvait faire les réunions par Internet. Je faisais mon travail à distance, et quand il fallait que je me déplace physiquement deux ou trois fois, je pouvais le faire. Il y a le train, c'est pas trop cher. Et pendant ce temps,
T'économises le loyer, t'économises bah, même au niveau de ton train de vie quelque part, parce que
voilà, c'est ça, c'est ça. La caravane, j'avais dû la payer entre 800 et 1000 euros, donc l'équivalent d'un mois de loyer. Au bout d'un an, ça représente 11 000 euros de mis de côté. Donc, c'est par le moins au début. Je précisais ça parce qu'une fois que j'ai mis assez d'argent de côté, je me suis acheté une grange. Et donc, je suis passé d'une caravane à une grange. Et là, j'avais un vrai toit. Mais pareil, une grange, c'est pas une maison. C'est une grange, ça reste une grange, ça reste rustique, rudimentaire. Mais ça m'a permis pendant des années de mettre de l'argent de côté avec cet argent que j'ai mis de côté, ça m'a permis d'acheter la maison dans laquelle je suis maintenant. Et aujourd'hui, j'habite, je peux dire fièrement, j'ai vécu en caravane, j'habite dans une maison de 250 mètres carrés, quoi. Dont je suis propriétaire.
Et donc, ça fait que finalement, ben, il n'y a plus de loyer, quoi, quelque part.
Et donc, ça répond à ta question du loyer. Ça m'a pris 7 ans, à peu près. Mais en 7 ans, je me suis débarrassé du problème du loyer. Voilà. Et alors, il y a un autre exemple que j'aime bien, c'est l'essence. Où les gens disent, oui, mais alors l'essence, on peut pas. Après, je peux prendre plein. Enfin, c'est ce que je t'ai dit. Il y a une solution différente pour chaque sujet, quoi.
Bien sûr, bien sûr. Mais là, de toute façon, tu parles de ton expérience et c'est ça qui est intéressant, quoi.
Ouais, ouais, c'est ça. Mais après, comme tu l'as dit, moi, j'ai échangé avec énormément d'autres autonomistes, en fait. J'ai quand même pas mal d'abonnés, donc je suis assez connu dans le milieu. Donc, il y a beaucoup de gens qui m'ouvrent leurs portes, qui m'ont fait visiter leur maison. Donc, j'ai vu plein d'autres façons de faire et en fait, j'ai totalement rien inventé. J'ai piqué à droite, à gauche des idées que j'avais vues bien fonctionner.
Et c'est comme ça que ça fonctionne. Enfin, de toute façon, c'est difficile d'inventer, c'est même presque impossible d'inventer quelque chose aujourd'hui.
Oui.
On va aller voir, on va lire un livre, on va prendre une idée, et puis on va se la réapproprier quelque part.
C'est ça, puis on va la moderniser, parce qu'il y a aussi une solution qui est un peu à mi-chemin entre les deux, c'est quand Elon Musk, il a sorti sa Tesla, tout ce qu'il a fait, c'est reprendre l'invention de Thomas Edison, qui en 1904 avait sorti sa voiture électrique, et il a modernisé une invention de 1904, et puis ça a très bien marché pour lui, quoi. Mais il a rien inventé. Et Thomas Edison lui-même n'avait pas tout à fait inventé les choses. Il avait inventé une partie des batteries, mais il avait piqué des idées à un Français. Enfin, faut le savoir, la première voiture électrique qui a dépassé les 100 km/h. Alors j'ai oublié son nom, je crois qu'elle s'appelait la Glorieuse ou un truc comme ça. Sauf erreur de ma part, parce que je dis peut-être une bêtise, mais sauf erreur de ma part, c'est un Français qui l'a fait. Tu vois, Edison, il est venu après.
Oui, mais même, de toute façon, même Edison, il a pris aussi beaucoup de travaux de Tesla. Enfin bref, c'est toujours comme ça, quoi. De toute façon.
Oui, souvent pour une invention, souvent on retient le nom d'une seule personne, alors qu'en réalité, il y en a 4-5 autres qui ont précédé et qui ont posé les jalons, quoi.
On va recentrer un petit peu au niveau des habitudes. Donc voilà, ben,
oui.
Si vous voulez plus de conseils au niveau de l'autosuffisance, ben, allez voir la chaîne de Bjorn. Pour moi, une habitude, c'est un peu ce qui nous définit. C'est-à-dire que, ben, par exemple, plus on va faire une activité en particulier, plus cette activité, elle va rentrer dans notre quotidien et elle va faire partie de nous. Que ce soit d'ailleurs les habitudes positives ou négatives, hein, d'ailleurs. Que penses-tu de ça ?
Oui, effectivement, les habitudes nous définissent. Parfois, enfin, c'est l'histoire de l'œuf ou la poule. Est-ce que c'est parce qu'on fait quelque chose de manière habituelle que l'on est ce que l'on est, ou est-ce que l'on est ce que l'on est
parce qu'on fait des choses habituelles
et que ça nous pousse à créer les habitudes, tu vois. Si j'étais un peu déterministe, moi, j'irais presque dans l'ordre inverse. Je dirais qu'il y a des gens qui sont programmés pour avoir certaines habitudes, tu vois. Quand tu discutes avec eux et que tu vois leur passé, tu vois que Il y a un truc qu'ils font tous les jours, mais en fait, ça remonte à leur enfance, tu vois.
C'est ça. D'accord, très bien.
Ouais, ben ouais, je pense qu'on est d'accord sur la définition de ce que c'est qu'une habitude, ouais.
Et donc, c'est quoi les habitudes de quelqu'un qui vit plus proche de la nature? C'est quoi tes habitudes quotidiennes, sans rentrer dans le perso, etc. Hein, mais disons que...
Je ne voudrais pas qu'il y ait un raccourci qui soit fait, parce que vivre en autosuffisance, ce n'est pas forcément vivre plus proche de la nature. Il y a qu'une seule partie en particulier qui est proche de la nature dans l'autosuffisance, c'est la production alimentaire. Par contre, tout ce qui relève, on peut prendre un contre-exemple, c'est tout ce qui relève de l'énergie. Là, au contraire, c'est être proche de la technique, de la modernité, des techniques modernes, des dernières inventions. Je veux dire, un truc comme le Raspberry Pi, c'est une invention géniale. On est à des kilomètres de la nature, hein.
Bien sûr, bien sûr.
Voilà.
Non, mais enfin, je disais ça dans le sens où, parce que ben, beaucoup de gens qui me suivent, ben, souvent, ça va être des gens qui travaillent sur ordinateur ou
Oui,
sur...
mais qui peuvent être autosuffisants sur certaines choses également, justement. C'est pas parce que tu vis en ville. Bien sûr, tu vas pas faire ta nourriture si tu vis en ville. Par contre, enfin, j'avais brièvement commencé à évoquer la question du transport et de l'essence. Il y a énormément de choses que tu peux faire pour être totalement autosuffisant en transport tout en vivant en ville. Même en vivant en ville, tu peux produire une partie de ton énergie, même dans un appartement, tu vois. Tu peux purifier ton eau, aller chercher de l'eau de source, même quand tu habites en ville. Dans la plupart des villes françaises, tu as encore des sources avec des sources comme l'eau de source, comme l'eau d'Évian, quoi. Tu peux tout... Moi, je vais chercher mon eau à la source dans mon village à la campagne, mais quand j'étais à Paris, j'allais également chercher mon eau à la source. Je buvais l'eau de. J'étais à côté de la fontaine de la Butte aux Cailles. Qui est c'est une cap en fait c'est une poche d'eau souterraine. Comme c'est une source, elle est gratuite, donc il y a juste à prendre des bidons, à remplir les bidons, et on a de l'eau de source gratuite, et ça on peut le faire quand on habite en ville.
Oui, c'est ça. Le truc, c'est que ça prend du temps et que la plupart des gens qui habitent en ville, c'est du tout tout de suite et voilà, ça c'est un autre sujet. Mais bon,
Si j'avais raisonné comme ça, je serais toujours dans un
c'est ça.
appartement de 15 mètres carrés à 1000 euros et je serais pas dans une baraque de 250 mètres carrés. J'ai attendu 7 ans en me disant je galère dans cette tente, je galère dans cette caravane, je galère dans cette grange, mais au bout du compte, j'aurai quelque chose. Il faut être patient.
Finalement, au bout du compte, tu as quelque chose de plus confortable,
Ah bah oui, c'est pas compliqué.
moins cher, si on reste dans cette thématique avec, enfin, par rapport à l'argent par mois, et où tu peux utiliser ton argent pour
Pour autre chose.
faire ce que tu as envie avec ta famille, etc.
C'est ça. Pour la famille, pour les amis, pour les choses importantes.
Très bien. Donc, tu n'as pas répondu vraiment, c'est quoi tes habitudes?
Alors, oulala, il y en a pas mal.
Mais disons les principales, si tu dois en choisir, par exemple, on va dire entre 3 et 5, c'est quoi les habitudes qui te forgent ton quotidien, que t'aimes, etc.
Alors c'est marrant parce que tu vois, c'est des choses auxquelles j'aurais jamais réfléchi avant que tu poses la question. Mais par exemple, il y a un truc dont je vois que c'est une habitude, à mon avis, qui a beaucoup d'influence sur moi. C'est le soir, tous les soirs, je lis au moins un petit quart d'heure d'un bouquin. Tu vois? Je prends un livre et j'essaye tous les soirs de lire, même si la journée a été longue, même si je suis crevé, même si j'essaye de prendre un petit quart d'heure pour me plonger dans quelque chose. Et alors, quand je dis un bouquin, ça peut être sur n'importe quel domaine, hein. Ça peut être sur
Oui, un domaine qui
pas
t'intéresse.
forcément. Alors justement, c'est ce que je te dis, pas forcément des choses qui m'intéressent. Des fois, je lis des bouquins sur un sujet qui a priori m'intéressait pas, et je me rends compte qu'effectivement le sujet est totalement pas intéressant. Mais il m'arrive aussi parfois de commencer à lire un bouquin sur un truc et de me rendre compte que le sujet est passionnant. Par exemple, il y a quelques mois, j'ai lu une série de bouquins sur les sous-marins. Tu vois, sujet totalement. Tu dis, ouais, les sous-marins, c'est quoi? Voilà quoi. Et en fait, tu t'aperçois que quand tu commences à creuser le sujet, t'apprends plein plein de choses dans plein de domaines. T'apprends le rôle des océans en fait dans la régulation du CO2, de la température qu'il y a à la surface de la planète, sur où t'apprends des trucs de physique sur la pression. T'apprends des choses sur la vie qu'il y a dans les fonds marins. T'as aussi des récits humains. J'ai lu un bouquin d'un militaire en fait qui était dans un sous-marin nucléaire Et donc, c'est intéressant de voir son récit, enfin, le récit que lui raconte, parce qu'il est quelqu'un qui peut potentiellement déclencher la fin du monde en appuyant sur un bouton, quoi, tu vois. Donc, ça lui amène des réflexions, enfin, c'est des choses sur lesquelles il cogite, quoi, le gars. Et donc, tu vois, juste un sujet tout bête comme les sous-marins.
Finalement, ça amène beaucoup plus loin, quoi.
Ah ouais, ça t'envoie dans plein de domaines, quoi. Ça va de l'écologie à la psychologie humaine par rapport à la guerre, hein. Tu vois. Alors une autre habitude que j'ai, alors qui pour le coup est plus liée à l'autosuffisance, c'est que je m'intéresse beaucoup aux sources d'eau. Et c'est vrai que je m'arrête régulièrement quand je passe en bagnole, quand je passe en voiture devant une source que je connais pas, une source ou une fontaine, je prends le temps de m'arrêter. Je prends toujours le temps de, tu vois, je me gare sur le bas-côté ou alors s'il y a une place pour se garer ou et je vais jeter un œil et je vais voir la qualité de l'eau, je vais voir si l'installation est moderne, récente. Et cette habitude-là, elle a créé dans ma tête un espèce de petit carnet où il y a beaucoup d'endroits où j'arrive et où je sais, ah ben tiens, là, à 2-3 kilomètres, si on cherche de l'eau, on va par là, et à 2-3 kilomètres par là, il y a une source, quoi.
Ah, c'est pas mal, ça. Et en plus, ben, comme la source, c'est un peu la source de la vie, enfin, je reprends, l'eau, c'est un peu la source de la vie.
Ouais.
Mais disons que oui, savoir où se trouve de la bonne eau, c'est vrai que ça, c'est quelque chose d'assez fondamental, quoi.
Mais voilà, c'est une autre petite habitude.
D'accord. Très bien, on peut, tu vois, il n'y a pas de souci. On peut avancer un petit peu, à part si t'en as une.
Oui, d'accord.
À part si t'en as une.
Non, mais une qui a vraiment une influence sur moi, je te dis, c'est les bouquins. C'est le fait de tous les soirs passer au moins un petit quart d'heure sur un livre. Ça, parce que tu le cumules
en mois, en année, c'est clair que ça fait beaucoup.
Voilà, en 10 jours, ça te fait déjà 150 minutes. Enfin, tu vois, si tu cumules ça sur des années, en fait, c'est colossal.
Oui, c'est ça. Et ça fait surtout que, tu te renseignes sur des sujets, comme tu disais, et puis après, ça peut t'amener d'autres réflexions, d'autres sujets, etc., etc.
Voilà, c'est ça. Et après, tu découvres des sujets intéressants. Et tu vois, je te dis, du coup, moi, je suis parti de cette histoire sous-marin et j'en suis venu à m'intéresser à des trucs de psychologie humaine sur ce qui se passe dans la tête d'un militaire qui va peut-être appuyer sur un bouton qui va balancer des bombes nucléaires qui va détruire la planète, quoi. Tu vois, je trouve ça intéressant parfois d'être surpris par une direction dans laquelle on va, dans laquelle on s'attendait pas du tout à aller, tu vois.
Et en plus, quelque part, le fait de cette habitude là, que le fait de lire un petit peu chaque jour, il y a aussi cette sensation, enfin, parce que moi aussi j'ai ça, et enfin je fais ça, et disons que tu as la sensation aussi de pas stagner, d'avancer un petit peu, parce que tu... Enfin, en tout cas, moi, ça me fait ça. Comme je vois que le livre, il avance, j'ai l'impression, entre guillemets, d'accomplir quelque chose. J'accomplis rien, mais disons que le fait de terminer mon livre et puis après de continuer, d'en reprendre un autre, etc., j'ai l'impression de grandir, entre guillemets, tu vois.
Ah, mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire. T'as avancé, t'es pas au même endroit aujourd'hui que tu étais hier, quoi. T'as fait même parfois un tout petit pas minuscule, mais c'est déjà un petit pas, t'as avancé, quoi.
C'est ça. Ok. Autre question. Comment tu organises tes journées? Une question un peu plus organisationnelle, je vais dire ça comme ça. Bien sûr, ça dépend de ce que tu as à faire, mais...
Ouais, ça dépend de la semaine ou du week-end, en fait. La semaine, je l'organise pour optimiser les temps morts pendant mon temps de travail. C'est-à-dire, lorsque j'avais des temps de transport pour me rendre à mon travail, il m'arrivait jamais de prendre les transports en commun sans écouter un podcast. C'est-à-dire que je sélectionnais des podcasts, en général la veille, et pendant le temps de transport, j'écoute un podcast ou j'écoute une émission radio pour que le temps que j'ai passé pendant le transport, en fait, ce soit pas du temps perdu, parce que je vois... Souvent, quand on prend le métro en ville, les gens, ils sont sur leur téléphone en train de regarder Snapchat ou le...
Oui, de scroller sur TikTok ou des trucs, ou même des vidéos YouTube, peu de divertissement, peu intéressantes, quoi.
Voilà, des trucs comme ça, quoi. En fait, et c'est ça qui est terrible au niveau organisationnel, en fait, ils sont en train de trouver une solution pour passer le temps. Ils ont du temps là, ils sont dans ce lieu clos, ils savent pas quoi faire et ils trouvent une solution pour passer le temps plutôt que d'optimiser le temps à leur disposition pour en tirer quelque chose pour eux et pour on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure et pour faire un pas de plus, apprendre quelque chose de plus, tu vois. C'est très curieux. Et du coup, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur les gens parfois qui sont en ville et qui veulent que les choses aillent vite. Mais j'ai l'impression que parfois ils n'ont pas toujours conscience que ça sert parfois à rien de vouloir faire aller les choses vite. Ce qui est important aussi, c'est de pas perdre du temps. Et il y a plein de moyens de perdre du temps en fait dont on se rend pas compte, mais on est en train de perdre du temps en faisant quelque chose qu'on fait régulièrement. Et il suffit juste de prendre un peu de recul et de se dire, attends, mais là, t'as 20 minutes de temps de transport, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand dans 3 trajets, t'as fait 1 heure, tu fais quoi? Une dizaine de trajets tu fais le calcul, ok, très bien, sur la semaine, c'est quoi 4 heures? Ben, en 4 heures, t'as le temps d'écouter un cours d'astrophysique, hein, j'en sais pas, et de progresser en astrophysique.
Ouais, ou même pas forcément, parce que tu sais, il y a beaucoup de gens, parce que moi je suis un peu dans cette thématique-là, entre guillemets, de productivité, même si moi je suis contre un peu ce mot-là, je parle souvent de saine productivité,
ouais.
Parce que tout le monde nous parle, il faut produire plus, machin, enfin, tous ces trucs-là un peu, enfin voilà, c'est pour moi, tant que tu l'as pas expérimenté dans ton quotidien, ça c'est des paroles un peu en l'air, quoi. Mais disons, là où je veux en venir, c'est que, comme tu disais, même le fait d'écouter quelque chose, même si c'est pas forcément quelque chose qui va t'apprendre quelque chose sur l'astrophysique ou quoi, mais quelque chose qui élève un peu le niveau.
Mais je vois ce que tu veux dire. Mais effectivement, ça peut être effectivement de prendre le temps pour échanger avec un proche par téléphone, ou même écouter de la bonne musique et passer un moment agréable qui fait qu'on est détendu lorsqu'on arrive au terme de son trajet. TikTok n'a pas cet effet sur les gens. Ça crée une dépendance à ces petits shoots qui t'arrivent à chaque fois que tu découvres un truc de nouveau. Et ça te fait vivre dans un état de frustration qui te rend pas heureux sur le long terme, en fait.
C'est ça. Ok. Donc finalement, t'as pas encore répondu totalement à comment t'organises tes journées.
Non. Alors oui, mais je vais répondre. Alors donc je fais la différence. Ben alors d'abord, la journée commence comme ça, donc il y a le transport. Ensuite, enfin il y a le transport où il y a pas le transport maintenant que je suis en télétravail. Ensuite, il y a deux phases dans la journée, le matin et l'après-midi. Et alors donc ça dépend du job que je fais. En général, j'essaye de faire de la masse le matin,
oui.
C'est-à-dire du quantitatif le matin et du qualitatif l'après-midi. C'est-à-dire le matin, je vais donner un exemple bête, hein, si j'ai 40 dossiers à traiter, tu vois, le matin, typiquement, je vais faire tous ceux qui vont le plus vite.
D'accord, ok, très intéressant ça.
Pour me dire, voilà, j'en ai fait un max, et ensuite, ce que je fais l'après-midi, tu vois, c'est ceux que je vais laisser pour l'après-midi, c'est ceux où peut-être il va falloir que je passe un peu plus de temps, que je sois un peu plus concentré. Et la raison pour laquelle je fais ça, c'est pour des raisons d'organisation de l'emploi du temps. C'est d'abord, ça me permet d'anticiper si je dois faire des heures sup. Parce que s'il y a, tu vois, je traite des trucs parfois où il y a des situations humaines difficiles, quoi, tu vois. Donc s'il y a une personne qui est en réelle difficulté, si je dois faire une heure d'heure sup pour cette personne, je vais faire une heure d'heure sup, quoi. Voilà.
Oui, c'est ça, mais disons qu'il faut que tu la prévois à l'avance pour savoir un peu où t'en es, quoi.
Mais voilà, c'est ça. Et d'où l'intérêt de traiter le matin en vitesse, parce que comme ça, ensuite, l'après-midi, je vois l'heure avancer et je me dis, ok, très bien. Donc ça veut dire que lui, pour m'occuper de son cas, je vais avoir peut-être une heure. Allez, éventuellement, on va pouvoir tirer jusqu'à une heure et demie. Donc, je sais que j'aurai de la marge. Ou si je vois le temps qui se réduit, je dis très bien. Bon, ben là, le temps se réduit. Donc, ce dossier important que je voulais faire et que je me gardais pour la fin, je veux me donner au moins 40 minutes pour le traiter. Donc, les personnes là qui sont un petit peu moins importantes et que je suis en train de traiter, ben, je vais les traiter un peu plus vite.
D'accord.
D'où la raison pour laquelle le matin, je fais de la masse, je fais du rendement, quoi, si tu veux, toi.
D'accord. Et comment tu... est-ce que tu... Par exemple, comme tu disais, le matin, tu arrives, tu vois tous les dossiers et tu les survoles pour savoir lequel va te prendre le plus...
Alors, concrètement, je reçois dans ma boîte mail, en fait.
D'accord, ok.
C'est-à-dire que tous les matins, j'ai ma boîte mail... Et alors, le chiffre est variable, mais normalement, j'en ai le chiffre officiel, théorique, parfois c'est plus, mais normalement, c'est 25 à traiter dans la journée.
D'accord.
Donc, il faut qu'à la fin de la journée, les 25 ont été traités. Si éventuellement, tu vois, il y en a un ou deux où il y a un petit peu de retard, que je les traite le lendemain, la Terre va pas s'arrêter de tourner. Hein, donc,
oui, bah oui. Mais disons qu'au moins, tu as fait le maximum dans ta journée. Voilà.
Voilà, c'est ça. Donc, mais par contre, mettons que j'en ai 3 que j'ai pas traités, ça veut dire que le lendemain, il faudra que j'en traite 28 et non 25. Donc, il faudra que je me réorganise le matin, le lendemain matin, mais toujours avec la même méthode, faire du chiffre le matin, pour pouvoir avoir plus d'attention sur les dossiers qui demandent plus d'importance l'après-midi.
Ok, c'est très intéressant. En fait, c'est comme si tu faisais le plus de petites tâches entre guillemets rapides le matin.
Ouais.
Et te réserver pour les grosses tâches avec plus de concentration, avec plus de focus, avec plus de temps l'après-midi, quoi.
Et surtout en ayant une estimation précise du temps qui me reste. Parce que quand on a 25 le matin, tu dis « Ok, très bien, j'ai une journée, mais combien de temps pour chacun d'entre eux ?» Tandis qu'une fois que tu as abattu tous les plus petits, ben, tu te dis « Ok, très bien, là, il m'en reste que 6. Et ben ces 6-là, je vois mieux dans ma tête combien de temps ça va me prendre de les faire. »
C'est ça. Quelque part aussi, c'est... plutôt que d'allouer, entre guillemets, du temps pour chaque dossier, finalement, tu as un bloc de temps pour les petits.
Ouais.
Et ensuite, ça va te permettre, comme tu le dis, de voir ensuite le temps qu'il va falloir pour chaque gros dossier. Je vais dire ça comme ça.
Mais en ayant le courage d'admettre qu'il faut faire une hiérarchie, parce que ça, c'est un truc, c'est un truc que les gens ont parfois beaucoup de mal. Les gens se disent parfois tout est important. Et faut se dire, ben non. Ben voilà, tout n'est pas également important. Il y a des choses qu'il faut, il faut leur donner plus de temps. Il faut leur donner plus de temps.
Je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui de faire la différence. Quand je dis aujourd'hui, c'est dans notre société, des fois de faire la différence entre ce qui est vraiment important à faire et ce qui est juste important comme ça ou ce qui est un peu moins important. Enfin bref.
Non, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ouais. C'est pas fait. Mais je vois ce que tu veux dire. Ouais.
C'est quoi ta manière pour te sentir bien au quotidien? C'est quoi, si tu as une technique à partager, une méthode pour te sentir bien? Ce qui te fait te sentir bien? Bien sûr, c'est pas possible d'être tout le temps hyper en forme, etc. Mais c'est quoi ta manière de te sentir bien, pour te sentir bien au quotidien?
Je sais pas, ce sera un cumulatif de trucs. D'abord, je mange de la très bonne nourriture. Enfin, c'est bête à dire, mais parce que là, tout à l'heure, on a abordé l'emploi du temps et je t'ai parlé matin, après-midi, mais il y a la pause de midi qui est super importante. il y a la pause de midi est genre super importante en fait. Et tu sais, le fait de pouvoir manger pas un snack comme ça en vitesse, tu manges un vrai repas, un bon repas, c'est quand même très agréable et ça fait que tu te sens bien, tu vois. Mais je parle pas juste d'un point de vue biologique, je parle même dans la tête en fait. S'il y a des gens qui sont prêts à payer plus cher pour aller manger dans un restaurant, c'est que ça leur apporte quelque chose. Ça leur apporte quelque chose, tu vois. Si tu dois acheter en magasin une barquette de mûres, une toute petite barquette de mûres, ça va être aux alentours de 4 ou 5 euros. Tu vois, c'est genre super cher. Les mûres, c'est très 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 cher. Mais manger des mûres, c'est super bon. Quand tu manges des mûres, tu te sens... Enfin, je veux dire, tu manges des mûres, c'est bon. Donc, ça justifie les 4 ou 5 euros. Maintenant, si tu as des ronces à côté de chez toi et que tu vas te poser pendant 10 minutes à manger des mûres sur le roncier, eh ben, c'est pas seulement bon, tu passes un bon moment, tu vois. Tu te sens bien. Et à l'issue de ce moment, ben, c'est agréable. Si t'as fini de manger et ton dessert c'est une pomme que tu vas cueillir sur un arbre, bah c'est sympa.
Oui, ça n'a pas la même valeur que la pomme qui est dans ton sac et que tu...
Exactement, exactement. Elle n'a pas le même goût. Elle n'a pas le même goût, la pomme, tu vois. Et ben, la somme de petites choses comme ça. C'est pour ça, je parle de la nourriture. Je prends cet exemple de la nourriture parce que la nourriture, c'est aussi un plaisir physique, mine de rien.
Oui, mais tu as tout à fait raison, c'est un très bon exemple. Comme tu dis, c'est plaisir physique, mais aussi plaisir mental, parce que...
Dans la tête aussi. Mais voilà, c'est ça. Donc, c'est un plaisir physique. C'est agréable, mais tu te sens bien. Mais tu te sens bien et c'est des choses qui permettent de se sentir bien, quoi.
C'est ça.
Voilà.
Ok. On va terminer, si tu es d'accord,
Ouais.
par une série. J'aime bien faire ça à la fin. De petites questions rapides. Alors, ça va être souvent des questions à choix que je vais dire et j'aimerais que. Bah, que tu aurais essayé de répondre du tac au tac sans trop réfléchir.
OK.
Et voilà, on voit ce que ça donne, quoi.
OK.
Ok, t'es prêt?
Ouais.
Planifier ou agir?
Ah mince. Ah non.
Ah, oui, tu vois. Alors attends, c'est pour ça que je t'ai dit.
Ah.
Après, tu réponds, c'est des questions à choix, mais tu fais ce que tu veux. D'accord? Il n'y a pas
Ouais, mais
de règles.
je peux pas te répondre parce que tu peux pas agir sans avoir planifié.
Bien sûr. C'est pour ça que je fais exprès. C'est des petits trucs que je fais
Ah.
exprès. C'est-à-dire que, bon, voilà, je vais te donner cet
Eh
exemple.
ben, je suis désolé de ma réponse. Je suis désolé si ma réponse ne correspond pas aux règles, mais tu ne peux pas agir sans avoir planifié.
Ah non, mais comme je te dis, il n'y a pas de règles.
Ouais.
Il n'y a pas de règles. C'est que moi, je te dis, c'est une des propositions, des questions à choix.
Ouais.
Mais si tu peux très bien choisir de ne pas choisir.
Eh
Tu peux
ben,
très bien choisir de choisir les deux. Tu peux très bien choisir de dire autre chose. En
OK.
gros, bon, c'est vrai que j'ai pas trop bien expliqué, mais disons que c'est des questions rapides pour que il en ressorte, comment dire, bah voilà ce qui est le plus pur entre guillemets, tu vois.
Bah, le fond de ma pensée, c'est la première chose que je t'ai dit. Pour moi, on ne peut pas agir sans avoir planifié.
Ok.
Donc, il ne faut pas opposer les deux. Il ne faut pas choisir entre les deux. Il faut faire les deux.
Très bien. Donc je continue. Donc planifier ou agir, tu viens de le dire. Comprendre ou apprendre?
Apprendre.
Chercher ou trouver?
Trouver.
Entreprendre ou métro boulot dodo?
Ah, pas évident. Les deux. Moi, je fais les deux. C'est-à-dire, j'ai été chef d'entreprise et en même temps que j'étais chef d'entreprise, je faisais métro boulot dodo.
Le meilleur moment de la journée pour toi.
C'est quand on se lève le matin, la journée commence.
D'ailleurs, est-ce que tu as bien dormi hier soir?
Non, j'ai quasiment pas dormi. J'ai bossé jusqu'à 4 heures, je crois, du matin.
Chaud ou froid?
Chaud.
Vivre ou rêver?
Les deux.
Été ou hiver?
Été.
Ton animal préféré?
Ah, c'est pas évident si je dois en dire qu'un. Le lynx.
Préparer ou manger?
Manger.
Faire des réserves ou ne pas se soucier de lendemain?
Faire des réserves.
Connaître la vérité ou vivre sa vie sans se poser de questions?
Connaître la vérité.
Un groupe ou une musique que tu écoutes actuellement?
Les Doors.
Aimes-tu le silence?
Oui.
Cultiver ou cueillir?
Cueillir.
Si tu avais à choisir, bon, je pense que tu as déjà choisi, montagne, campagne ou bord de mer?
Si j'avais à choisir, alors je suis pas tout à fait à la montagne, je suis à la campagne, mais si j'avais à choisir, ce serait montagne.
D'accord, pourquoi?
Parce que j'adore ces environnements et je m'y sens à l'aise.
La forêt ou la maison?
La forêt.
Voyager ou rester chez soi?
Voyager.
Être dedans ou dehors?
Dehors.
Et pour terminer, avec ou sans argent?
Sans argent, il n'y en a pas besoin.
Merci pour ce moment passé ensemble. Donc, comme je vous le disais, si cet échange a été intéressant, n'hésitez pas à aller rejoindre sa chaîne si c'est des sujets qui vous intéressent. N'hésitez pas aussi à partager le podcast. Dernière chose, Bjorn, est-ce que tu as quelque chose de spécial à dire aux auditeurs? Une recommandation, un livre à lire, enfin bref, peu importe, je te laisse le mot de la fin.
Alors, j'ai trouvé intéressant que tu me demandes de réfléchir sur mes habitudes. Je sais pas si tes auditeurs l'ont déjà fait, mais du coup, ta question m'a fait réfléchir, tu vois. Je me demande si eux-mêmes se posent la question de leurs habitudes et de la manière dont elles ont une influence sur eux. Mais si j'avais quelque chose à dire à tes auditeurs, c'est du coup, c'est quoi vos habitudes et en quoi est-ce qu'elles vous influencent?
Merci encore, Bjorn, d'avoir accepté cet entretien. Et puis,
Ben, merci de ton invitation et à plus.